France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, les chansons de Boris Vian, première partie. Boris Vian aurait aujourd'hui 100 ans, mais il est parti à 39 ans, terrassé par une crise cardiaque. Homme hyperactif et inclassable, il a vécu 10 existences en une, étant à la fois ingénieur, romancier, poète, dramaturge, traducteur, musicien, chanteur, cinéaste, directeur artistique. Selon certains de ses proches, il touchait à tout par peur de s'ennuyer. C'est aussi parce qu'il se savait condamné par une malformation cardiaque qu'il vivait à 200% pour profiter au maximum de sa courte vie. Les plus fidèles d'entre vous, chers amis auditeurs, se souviennent de l'émission que j'avais consacrée en juin dernier à Boris Vian sous l'angle du pastiche pour marquer les 60 ans de sa disparition. À présent, pour célébrer son centenaire, nous allons explorer son œuvre musicale sous d'autres aspects au long d'une série qui va nous occuper plusieurs semaines. Du jazz à la chanson sera le sujet de notre première émission avec une plongée au cœur de ses premières années de production. Nous sommes en 1936. Boris a 16 ans et commence à se passionner pour la musique de jazz, qui est encore réservée à un petit nombre de passionnés. Il acquiert rapidement une connaissance pointue et adhère au Hot Club de France. Son goût l'oriente vers la trompette, dont il commence à jouer, fortement inspiré par le jeu de Bix Beiderbecke. En 1937, Boris forme un petit orchestre de jazz très amateur avec son frère Alain à la batterie, son autre frère Lélio à la guitare et François Rostand au piano. En dehors de ses études, Boris partage son temps entre la musique et l'organisation de soirées mémorables avec ses frères dans la salle de bal construite par ses parents au fond du jardin de leur villa de Ville-d'Avray qui peut accueillir plusieurs centaines de personnes. Il est un animateur de choix, déjà célèbre pour son sens de la fête et des canulars. Avec un sens inné des enchaînements musicaux, il est préposé à l'usage du phonographe et des disques de jazz, avec étiquette américaine de préférence.
Oh, bon vieux temps héroïque du jazz. On se fichait pas mal des paroles. On choisissait ta monnaie de base. Et on chantait des choses folles en tâchant de l'alcool. J'ai quitté mon père au moment. Avec une paire de ciseaux, je suis partie droit devant moi en chassant des punaises. En 6 ans, pas avant, j'en ai trouvé 216. Je les ai livrées au chef de la police pour les boucler. C'est depuis ce jour qu'en prison on en trouve toujours. Je me suis acheté une trompette. Jouais sur les bords de la route. Je savais des morceaux, 4 ou 5. On tâchait de me faire taire en me jetant dans la route. Il avait 30 ans. Il ne lui manquait que 6 ou 8 dents. La taille bien faite. J'ai jamais aimé les mauviais. J'espérais des enfants dans un tel rapide. J'attendis 2 mois puis. Si stupide, je l'ai découpé avec mes petits ciseaux à broder. Comme mon papa, c'est le meilleur truc dans ce cas-là. Oui.
Pour construire son spectacle Regard sur Boris Vian en 1989, Magali Noël est remontée aux sources de son œuvre, notamment avec cette chanson écrite par Boris en 1943 à l'âge de 23 ans sur une musique composée par son ami guitariste Jean-Marc Sabrou, dit Johnny Sabrou. Entré en novembre 1939 à l'École centrale des arts et manufactures, Boris s'était déjà amusé, au printemps 40, à trousser ses premiers couplets sur l'air d'une chanson paillarde, assimilant ses camarades de promotion à des soldats. Durant l'été 40, Boris fait la connaissance d'une jeune fille de son âge, Michèle L'Église, qu'il a épousée l'année suivante. Tous deux sont adeptes du mouvement Zazou. Les années d'occupation le voient entrer comme ingénieur à l'AFNOR, l'agence française de normalisation, mais aussi écrire ses premiers romans et recueils de poèmes. Au sortir de la guerre, Boris multiplie les expériences, notamment avec son nouvel ami Paul Brafort, ingénieur chimiste et auteur de chansons, lors de séances qui ont lieu au domicile de ses parents à Paris 15e. Il en racontera l'ambiance dans une grande série d'émissions produites en 1979 pour France Culture par Noël Simsolo et Dominique Rabourdin sur l'œuvre de Boris Vian.
Boris a été intéressé aux chansons, pas en faisant, mais en chantant. Lorsque je l'ai connu... juste après la libération, ou même non, à la fin de la guerre, en fait, du temps du major, je faisais moi-même des chansons, je commençais à faire des chansons, que Boris devait beaucoup pousser par la suite chez Canetti, en vain d'ailleurs, et nous avions créé, juste après la libération, alors une petite chorale qui s'appelait la chorale de Saint-Germain-des-Pieds, et dans laquelle chantait Boris, sa femme Michel, un garçon qui s'appelait Maxime Damin, qui faisait des abat-jours, et moi-même. Et alors, on avait un petit répertoire, et j'ai retrouvé récemment, grâce à Noël Arnaud, des textes de chansons mises en scène, avec le découpage et l'attribution des différents morceaux de la chanson aux différents interprètes, Boris, Michel, Maxime, Paul. Je vais vous en chanter un petit morceau, si vous voulez. C'est une chanson qui s'appelle « La Java de du coin de la rue ». C'était typique de notre production, car... c'était des chansons qui étaient volontairement d'un cynisme et d'une vulgarité absolument effroyables. Alors voilà la Java du coin de la rue. C'est la Java du coin de la rue qu'on sue sur la housse que ça pue. La Java des tordus, des bébés mal foutus qui barbotent dans la morve et le pu. Danse au son de la cornemuse, dans tous les bouges où ce qu'on s'amuse. La Java si légère que tous les montent en l'air, sifflent en égorgeant les rondières.
Faut pas t'en faire la la.
La Java de mon trottoir, où les marlous rôde le soir. La Java des gros mecs qui rôdent fort et boivent sec pendant que les barbus jouent aux échecs. C'est la Java vache qui se termine à coups de hache. La Java des boxeurs qu'on écrase en douceur en les coinçant sous des ascenseurs.
La même équipe se réunit régulièrement rue de l'Université au club d'essai de la radiodiffusion française, alors dirigé par Jean Tardieu, pour enregistrer de petits opéras bouffes composés par Paul Brafort sur des livrets de Jean Suyeux. Cet esprit plutôt potache tranche avec les chansons que Boris a écrites après la libération sur des musiques de son ami pianiste de jazz Jacques Dieval, « Ce n'est que l'ombre d'un nuage » et « J'ai donné rendez-vous au vent ». Le musicien en relatera les circonstances sur France Culture en 1979.
Vers 1946, on se voyait très souvent, je venais d'avoir eu deux mélodies qui m'étaient commandées pour Irène Joachim et Jacques Janssen, qui faisaient Pélias et Mélisande à l'époque. Et c'est l'époque où j'enregistrais pour Chant du Monde, d'ailleurs. Or, Joachim était avec Desormières, qui était le grand chef d'orchestre que vous avez connu. Ils m'ont demandé deux musiques, j'ai composé ces musiques, et tout d'un coup, sur ces musiques, Boris m'a dit « Mais écoute, moi, je serais très heureux de t'écrire deux poèmes sur ces musiques, car ça m'inspire beaucoup. » Alors, je lui ai donné comme ça, en disant « Ben oui, écoute, si tu veux. » Et puis, il m'a fait deux poèmes qui sont magnifiques, qui collent absolument, qui étaient d'ailleurs, je crois, deux des plus beaux poèmes qu'il a écrit, c'est-à-dire quand on les récite, c'est pas du tout du Boris Vian, quoi. J'ai été engagé bien plus tard, alors au moins 6 ans plus tard, à Londres pour faire l'inauguration du Royal Festival Hall, où je devais jouer mon concerto de piano, et avec l'Orchestre Symphonique de la BBC, on m'avait demandé autre chose de moi. J'ai proposé ces deux mélodies parce qu'il y avait également Jacques Janssen et il y avait Irène Joachim, ce qui fait qu'elles ont été en réalité créées en public devant 6000 personnes, puisque le Royal Festival Hall est immense, à Londres, en français, à l'occasion de l'inauguration du Royal Festival Hall.
J'ai donné rendez-vous au vent près de la fontaine, et je lui ai livré ton corps, tes cheveux d'orfèvre,
et tes lèvres me caressent tendrement, je voudrais pleurer.
Ces chansons seront les deux premières de Boris Vian à être éditées en 1948. Mais la chanson reste pour l'heure une activité très secondaire. Ce qui occupe le plus Boris, c'est l'écriture de poèmes, de nouvelles et de romans qu'il a bien du mal à faire publier. Écrit à la fin de l'occupation, « Vers coquin et le plancton » ne paraît qu'en 1947 avec l'aide de Raymond Queneau. « L'écume des jours » sort également en 1947 chez Gallimard, sans aucun succès, puis « L'automne à Pékin » aux éditions du Scorpion. Mais ce sont ses romans provocateurs, voire scandaleux, écrits sous le pseudonyme de Vernon Sullivan et parus au Scorpion, qui provoquent une certaine agitation. « J'irai cracher sur vos tombes » en 1946, « Les morts ont tous la même peau » en 1947 et « On tuera tous les affreux » en 1948. L'autre grande occupation de Boris dans ses années d'après-guerre, c'est le jazz, déjà présent en toile de fond de nombre de ses romans. Car sa passion d'adolescent a pris durant l'occupation un tournant plus sérieux avec la rencontre du clarinettiste Claude Abbadie, ingénieur comme lui, qui s'en souviendra en 1966 lors d'une émission hommage à Boris Vian, produite sur France Inter par Jean Chouquet, avec l'aide de son biographe Noël Arnaud.
Claude Abbadie, racontez-nous la naissance de cet orchestre Claude Abbadie avec Boris Vian à la trompette.
J'avais joué d'abord avec Alain Vian, le frère cadet de Boris. J'avais joué de la batterie avec lui dans je ne sais quelle soirée obscure. Et il m'a dit, j'ai un frère qui joue de la trompette. Alors j'ai pris rendez-vous un jour avec le frère d'Alain, à Ville d'Avray, dans cette fameuse maison de Ville d'Avray qui a été célébrée depuis par tant d'écrivains et de chroniqueurs. Et j'ai fait des connaissances à ce moment-là d'un grand type pâle, l'air ironique, qui, paraît-il, était lui aussi un ingénieur. Alors on a... Enfin, il n'y a pas eu d'histoire. Ensuite, nous avons joué ensemble, nous avons réuni les frères Vian et nous avons répété à mort dans cette fameuse salle des fêtes de Ville d'Avray, cette espèce de baraque en bois dans laquelle se passaient les surprise parties.
Avec l'orchestre de Claude Abbadie, Boris Vian grave entre 1943 et 1945 ses premiers disques souvenirs, ce qu'on appelait des acétates. Il s'agit de disques privés enregistrés à compte d'auteur. Certains seront édités sur disque 33 tours dans les années 60. À partir de 1944, l'orchestre Abbadie participe à de nombreux concours de jazz. Il finira par remporter le premier tournoi de jazz amateur à Bruxelles en novembre 1945. Cela lui vaudra d'enregistrer en février 1946 quatre faces pour le prestigieux label Swing, dirigé par l'influent Charles Delaunay. Deux seront publiés sur leur unique disque 78 tours commercial, dont Jazz Me Blues.
Vous avez joué partout, vous avez joué même à l'étranger, même en Belgique, je crois.
Seulement après la guerre, parce que cette première rencontre, c'était pendant la guerre, c'était en 1941.
Claude Abbadie.
Nous avons joué après la guerre, alors un peu partout, effectivement, c'est-à-dire, enfin, un peu partout, très près de Paris, parce que aller à l'étranger, à cette époque-là, c'était encore une entreprise. Et quand on allait à Bruxelles, on a l'impression d'aller très loin, on prenait le train de nuit pour aller à Bruxelles.
Vous dites ingénieur aussi. Quel est votre métier, vous, Claude Abbadie ?
Oh, je suis ingénieur.
Voilà. Il ne faut pas vous excuser, vous savez.
Non, je ne m'excuse pas. Je déclare, je suis ingénieur.
En mars 1946, l'orchestre Abbadie-Vian remporte un prix à la salle Pleyel. Au même moment, Boris entre à la rédaction du magazine Jazz Hot, où il écrira durant 10 ans des critiques fort appréciées par leur pertinence, mais aussi par leur ton novateur, détendu et souvent humoristique qui permet plus de mordant. Le 5 octobre 1946, Boris fait sa première descente avec son ami Le Major dans une cave de jazz ouverte quelques mois plus tôt au sous-sol de l'hôtel Les Lorientais, rue des Carmes, où joue l'orchestre de Claude Luther, spécialiste du style New Orleans. Le 11 avril 1947 a lieu l'inauguration du Tabou, établi dans le sous-sol d'un bistrot ouvert toute la nuit au 33 de la rue Dauphine et appelé à devenir très célèbre. Ce club est d'abord fréquenté par la jeunesse dite existentialiste qui vient danser au son d'un pick-up. On y remarque entre autres deux jeunes égéries nommées Anne-Marie Casalis et Juliette Gréco. Cette dernière est alors comédienne dans la troupe de Michel Deray. Elles font venir les intellectuels du café des Deux Magots. Au mois de juin 1947, Boris Vian amène dans la cave de la rue Dauphine un orchestre de jazz de style New Orleans. Arrivant tard, il prend sa trompinette, ou trompette de poche, mieux adaptée à sa constitution fragile, et fait le bœuf avec les musiciens présents. Il s'agit le plus souvent de ses frères Alain et Lélio, de Guy Montassu, Guy Lognon et Timsy Pimsy. Désormais, c'est donc principalement Boris qui anime les nuits du tabou où l'on danse le swing sans relâche. Devant l'orchestre, Johnny Sabrou, surnommé Tarzan, se pique de chanter le blues. Et pendant les pauses, Alain Vian récite des poèmes de sa composition sous le nom de Nicolas Vergencèdre. En guise d'indicatif, Boris écrit des paroles françaises burlesques sur le standard Whispering, qui devient ainsi « Ah, si j'avais un franc 50 ». Cet hymne est une façon amusante de rappeler aux habitués du tabou que son orchestre n'est qu'amateur et bénévole.
Et pour clôturer dignement une journée consacrée à la jeunesse, j'arrive maintenant au tabou. Vous avez tous entendu parler du célèbre bar, ses habitués, et en particulier le célèbre trompette Boris Vian. Pour l'instant, je voudrais que vous entendiez seulement le jazz et les jeunes qui dansent et qui s'amusent.
Ce reportage au tabou, présenté par Georges Join, date de décembre 1947. Cette même année, à la demande de son frère Alain, Boris a écrit d'autres paroles burlesques sur le standard de jazz New Orleans Tiger Rag, qui seront enregistrées 10 ans plus tard par un orchestre constitué de leurs amis. Par ailleurs, Vian écrit quelques nouveaux textes de chansons sur des musiques de Jean Gruyère et Jean Marty, deux musiciens de l'orchestre Claude Abadie, et de son ami Jacques Dieval, mais aucune ne sera enregistrée. Avec Dieval, Boris a même le projet de fonder une maison d'édition musicale. En octobre 1947, le club d'essai offre une carte blanche à Boris Vian sous le titre « Jazz au quartier latin » où il interprète toute une série de morceaux. Agacé par l'esprit de plus en plus commercial des patrons du tabou, Boris Vian quitte cette adresse ultra-médiatique pour fonder avec Frédéric Chauvelot une autre cave de jazz rue Saint-Benoît, le club Saint-Germain-des-Prés, qui sera inauguré le 11 juin 1948. Alain Vian reste l'animateur du tabou, mais le club, privé de ses forces vives, ne tiendra guère plus de quelques mois. De par ses dimensions et ses tarifs plus élevés qu'au tabou, le club Saint-Germain attire une clientèle plus sage, plus bourgeoise et ne présente que des musiciens professionnels. Sans tarder, Boris commence à y recevoir les vedettes du jazz américain de passage à Paris, engagées à la salle Pleyel ou au Palais de Chaillot, notamment Duke Ellington, le 19 juillet 1948. Le 1er juillet, Boris Vian participe à un gala grandiose, la Nuit de Paris, sous un chapiteau de cirque installé sous la tour Eiffel et présenté par le célèbre animateur Saint-Granier.
Et après Tito Skipa, voici un contraste, puisque c'est maintenant Boris Vian, l'auteur de « J'irai cracher sur vos tombes », Boris Vian et son orchestre existentialiste du tabou qui s'installe sur la piste. Mais Boris Vian a non seulement des musiciens, mais toute une troupe de danseurs, toute une série de couples très existentialistes, de couples très tabous, de garçons et de filles. Les garçons sont en chemise à carreaux avec des bretelles, avec des supports chaussettes apparents sur des sockets multicolores. Les filles ont les cheveux hirsutes et ils dansent absolument comme des noirs de Harlem, avec une frénésie, avec un entrain extraordinaire. Je ne sais pas exactement si c'est le boogie-woogie ou le bebop qu'ils interprètent, mais je vous laisse juger.
Boris passe le reste de l'été 48 à Saint-Tropez, où il lance la nouvelle vogue du jazz avec quelques amis musiciens, comme le saxophoniste Don Byas, et suscite une certaine agitation. Au cours de la saison suivante, Vian reçoit au Club Saint-Germain des musiciens de la jeune génération, les ambassadeurs du style bebop, comme Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis, Max Roach, Kenny Clarke. Séduit par cette évolution musicale, Boris, qui n'aime que les nouveautés, délaisse sans regret le style New Orleans. En parallèle, les apôtres du New Orleans s'imposeront au club du Vieux Colombier, qui connaîtra la gloire avec Claude Luther et Sidney Bechet. Le mythe des caves de jazz, dont Boris est en partie responsable, aura une longue postérité qu'il expliquera en novembre 1948 à Jean Rabaud dans l'émission Promenade à Saint-Germain-des-Prés.
Pourquoi était-il nécessaire de l'installer dans une cave?
Ah, ça je ne sais pas. Vous savez, je crois que ça date de l'occupation, ça, des bombardements. Vous savez, on a tellement pris l'habitude de descendre la nuit dans des caves que...
Mais pendant l'occupation, on ne descendait pas dans les caves. Quand on était bombardés, les Parisiens restaient sur le pas de la porte.
Oh, pas tellement. Non, au fond, ils étaient ravis de descendre dans des caves. C'était une diversion. Il faisait connaissance avec leurs caves. On ne connaît jamais ces caves, vous savez.
Alors c'est l'habitude de fréquenter les caves qui,
c'est ça, ils ont voulu
à votre
continuer.
Avis.
Ils ont voulu continuer.
Mais vous, M. Boris Vian, votre ambition personnelle, à vous, quelle est-elle?
Alors, moi, c'est conserver un endroit où je puisse, avec mes camarades, faire le plus longtemps possible la musique de jazz sans concession.
Et vous n'avez pas eu trop de malheur jusqu'ici avec les habitants du quartier?
Oh non, à part quelques sourdeaux sur la tête, des têtes de poissons pourris, des tomates, enfin des choses comme des choses plutôt nourrissantes. D'ailleurs.
Mais il faut souffrir pour l'art.
Ah, il faut souffrir pour l'art.
En mars 1949, parallèlement à Jazz Hot, Boris Vian devient le rédacteur en chef de l'éphémère revue fondée par Eddie Barclay, Jazz News. Cela correspond à l'époque où il participe régulièrement à l'émission dominicale de Georges Baume, Jazz Parade, sur le poste Paris Inter. Durant l'été 49, prenant avec Michel ses habituelles vacances à Saint-Tropez, il va ouvrir une annexe du club Saint-Germain au Café de la Ponche. Peu avant son départ, Jazz Parade lui consacre toute une émission où le célèbre critique Franck Thénault dresse son portrait, tandis que Georges Baume le questionne sur son parcours de passionné.
Pour en revenir à vous, Boris Vian, est-ce que chez vous, le musicien que vous êtes, a précédé le collectionneur et le critique?
C'est-à-dire, j'ai commencé non comme collectionneur, mais comme utilisateur de disques de jazz, en dansant sur les rythmes des disques que j'achetais. J'ai commencé par conséquent par acheter de très mauvais disques, de la musique de danse quelconque, enfin aussi bien des orchestres anglais, genre Carol Gibbons ou Charlie Kuntz.
J'espère que vous ne nous ferez pas entendre de ces mauvais disques-là.
Non, aucun de ces disques-là. Petit à petit, dans le tas, il s'est rencontré de bonnes faces et j'ai épuré peu à peu mes préférences.
Eh bien, voulez-vous que nous commencions à entendre l'une de ces bonnes faces, l'une des préférences auxquelles vous êtes demeuré fidèle?
Eh bien, voici par exemple une face d'Armstrong, If I Could Be With You One Hour Tonight, où Armstrong prend un chorus que j'estime, pour ma part, sensationnel.
Oh baby, baby, I wanna be with you tonight.
Je crois qu'il est inutile, évidemment, de faire remarquer tout ce que le chorus d'Armstrong a de perfection, aussi bien mélodique que rythmique, et toute l'invention de Louis et tout son lyrisme. Louis est peut-être mal accompagné, il y a beaucoup de disques dans lesquels on trouve que Louis est mal accompagné. Moi, je ne suis pas tellement ennemi d'une certaine lourdeur dans l'orchestre qui l'accompagne, je trouve que ça fait encore mieux ressortir les qualités de Louis. Il tranche encore plus, vous me direz qu'il n'a pas besoin de ça, mais enfin, ça souligne d'autant mieux la finesse de son jeu. Et d'ailleurs, au point de vue orchestral, au point de vue accompagnement, je suis toujours assez partisan des grandes formations.
If I was free to do the things I might do, I'm telling you, I wouldn't be...
Ce morceau qui séduisait Boris Vian, If I Could Be With You, est un standard de la chanson américaine créée en 1927, dont les versions gravées jusqu'à nos jours se comptent par centaines. Notamment celle enregistrée en août 1930 par Louis Armstrong and his Sebastian New Cotton Club Orchestra. Le rôle joué par Boris Vian dans la popularité du jazz en France est essentiel. Par l'animation du tabou, puis du club Saint-Germain-des-Prés, par ses critiques régulières dans le Jazz Hot, par sa présence dans l'émission Jazz Parade, qui organise également des jam sessions au théâtre Édouard VII, auquel il arrive que Boris participe. Mais en cette année 49, les choses sont claires. Les médecins interdisent à Boris de continuer à jouer de la trompette, même de la trompinette. Ayant quitté l'orchestre de Claude Abadie, il continue à se produire ça et là dans des galas, mais finit par arrêter quasi définitivement de jouer, car comme il l'écrit à cette époque, « Chaque souffle dans ma trompette abrège mes jours. »
Pour un musicien de jazz amateur qui a une technique limitée, ce que j'étais, c'est évidemment très amusant de jouer dans le vieux style. Mais personnellement, mes goûts vont à la musique de Duke Ellington et aux grandes formations. Count Basie, par exemple, et parmi les modernes, alors les petites formations comme celle de Miles Davis, Thelonious Monk et leur école. En musique classique, je commence à m'y intéresser à partir de Debussy et Ravel, et ce qui suit, enfin jusqu'à Berg, Schoenberg, Bartok et tous les avant-gardistes.
À la fin de l'année 49, Boris fréquente Eddie Barclay, également passionné de jazz, et fait la connaissance de Jacques Canetti, directeur artistique des disques Polydor et bientôt de Philips. C'est également à cette époque que se situe la rencontre avec un jeune fantaisiste nommé Henri Salvador, dont Jacques Dieval est devenu entre-temps le pianiste. Tous deux témoignent dans la grande série d'émissions produite en 1979 pour France Culture par Noël Simsolo et Dominique Rabourdin sur l'œuvre de Boris Vian.
Jacques Dieval avait fait une chanson avec Boris Vian et puis il m'a demandé si je voulais la chanter et Boris Vian voulait me connaître. Alors il m'a amené chez Boris Vian qui était à Saint-Germain-des-Prés. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs et depuis on ne s'est plus quitté. On est devenus des amis.
Et ces chansons, c'est la vie grise et c'est le bebop.
C'est ça, oui. Et c'est le bebop, c'était la chanson préférée de Piaf quand j'étais sur scène. Et je me souviens, à chaque fois, oui, c'est le bebop. C'était Piaf qui criait dans la salle.
J'avais demandé à Boris de faire les paroles parce que, comme il était musicien, comme il aimait le jazz, comme il avait le sens du swing, j'étais sûr au moins que j'aurais des paroles que l'on pourra chanter avec swing. Et il a tapé dans le mille, il m'a fait ça très vite, et c'était tout à fait ce qu'il fallait, étant donné que je le faisais pour Henri Salvador, et il y avait un disque que l'on devait faire à l'époque pour Philips, que c'est chez Canetti qu'on avait enregistré ça, et c'était le seul qui, à l'époque, pouvait vous faire vraiment des paroles qui swingaient sur une musique qui était faite pour swinguer.
Voici une chose un peu plus avancée dans la musique moderne, c'est l'étude du bli-bli-bli, du blablabla, du houlioumop. Une jolie page de Boris Vian et Jacques Dieval qui s'appelle « It's a bebop ».
Savez-vous ce qu'il faudra écouter toute l'année sans arrêter ? C'est le bebop, il faudra laisser tomber les chanteurs pleins de douceur et de candeur. Pour le bebop, je vous dis que ce sera bien porté de fredonner, de chantonner. Comme un bebop, cherchez tout de suite avec ardeur un professeur un peu à la hauteur. Pour le bebop, je vais vous aider pour les premières leçons. Je vais vous guider avec la plus grande attention. Toutes les branches de l'activité seront visées, c'est sûr et c'est réglé. Par le bebop, on doit s'habiller ou se promener, manger, danser et même s'aimer à la bebop.
Avec ce titre gravé chez Polydor en février 1950, mais que nous entendions à l'instant dans une version donnée la même année au club d'essai de la radio, Henri Salvador est le tout premier à enregistrer une chanson de Boris Vian. Ce morceau, composé dans le style de Charlie Parker, symbolise la rupture déjà consommée depuis quelques années entre l'ancienne et la nouvelle génération du jazz. Ainsi, au tournant de l'année 1950, Boris Vian entre véritablement en chanson avec l'essor du style rive gauche à Saint-Germain-des-Prés. La rencontre sous les auspices de Jacques Dieval entre Boris Vian et Henri Salvador sera déterminante pour la suite car ils ne se quitteront plus et signeront ensemble un nombre impressionnant de titres. Durant les années 50, Vian va se consacrer davantage à la chanson en écrivant pour lui et pour de très nombreux interprètes des centaines de titres comme nous le verrons dans les prochaines émissions. « Je remercie Dorothée Goll à la préparation, Valentin Azan-Zielinski à la technique, Max James à la réalisation, Gwen Michel pour les archives de l'INA, Norman Barogeli pour sa passion viennesque et ses conseils.
À réécouter sur francemusique.fr.